On va commencer, mesdames et messieurs, chers participants de la rencontre de ce matin. Il s'agit bien d'une conférence de presse pour mieux parler de ce qui a été passé sur l'événement de rapatriement de nos compatriotes qui étaient en Libye et en Côte d'Ivoire. Donc pour cela, aujourd'hui, l'AME et d'autres organisations de la société civile ont jugé nécessaire d'appeler les journalistes ce matin pour mieux parler de ce qui a été fait et de ce qui va et ce qui reste à faire. Donc pour cela, nous sommes là ce matin. Vous avez quelques conférenciers qui sont là. Vous avez M. Oumar Sidibé qui était à la frontière Tunisie-Libye, précisément à Choucha, si c'est le nom, Choucha. Vous avez le psychologue Jean-Richard Tchenou qui était aussi en mission, qui va donner le bilan. Vous avez Reméo Taman de Arasem qui était à la frontière Égypte Libye, qui va aussi donner le bilan de son parcours. Et ce qui a été prévu, il y a M. Mamadou Keïta de l'AME qui fait l'accueil à l'aéroport de Senou et Febak de Bamako. Madame Karambe, qui est la présidente d'une fédération qui s'appelle Femmes au Mali, qui va parler le contexte d'accueil des rapatriements de la Côte d'Ivoire. Vous avez M. Camara, Mamadou Camara, de AGI, Association des jeunes expulsés, qui ont aussi fait beaucoup de travail pour l'accueillir, les rapatriés de la Côte d'Ivoire. Et enfin, vous avez un autre Camara de Amarlec, qui va aussi parler toujours le mouvement qu'ils ont fait pour l'accueillir, les rapatriés de la Côte d'Ivoire. Donc, sans plus retarder, on peut commencer et je peux donner la parole à monsieur le modérateur qui est Alassane Diko, qui va donner la parole à des intervenants. Je vous remercie.
Bien. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Ousmane, président de l'association Malien des expulsés. Comme vous avez si bien campé le décor, alors on a voulu effectivement cette conférence d'information et d'échange sur la problématique même, n'est-ce pas, de l'arrivée brusque, l'arrivée involontaire, forcée de tous nos compatriotes et aussi de nombreux, sinon des milliers subsahariens qui ont fui un pays en crise, un pays frère et ami du continent africain qui est la Libye. Mais dans ce contexte-là, effectivement, beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses, semble-t-il, ont été faites. Mais à l'impact et à l'analyse de ces impacts, nous voyons qu'il y a du reste. Ce qui va nous permettre de nous interroger nous-mêmes sur ce qu'on a fait, de la pertinence de nos actions et de ce qui a manqué. Et aussi souligner les insuffisances. Parce que quand des compatriotes arrivent dans un pays qui a beaucoup de ressortissants à l'étranger, je pense que le minimum, c'est d'avoir de bonnes dispositions d'accueil, d'accompagnement et d'insertion de ces personnes-là dans le pays d'origine. Donc voilà, sans plus tarder, il faut savoir quand même que ces migrants qui ont fui, ce n'étaient pas seulement des Africains. Dans les interventions des autres conférenciers, vous allez bien remarquer qu'il s'agit de nombreuses nationalités. Sur le camp là-bas, il y en avait au moins une quinzaine, voire même une vingtaine de nationalités, c'est selon. Mais pour notre part, nous allons parler des migrants subsahariens et principalement des Maliens. Tout ce travail, les acteurs de la société civile, en tout cas dans le domaine de l'humanitaire, dans la migration, on a commencé ce travail dès qu'on a eu l'information, c'est-à-dire dès le déclenchement de la crise. C'est dès le déclenchement de la crise, on a vu que déjà avec les arrivées
chaque fois qu'ils viennent de France ou d'autres pays, d'Arabie Saoudite ou d'autres continents, ou même des châtelets qui viennent de Libye d'habitude, on voit déjà que les personnes arrivent mal en point. Et surtout maintenant, dans ce moment de guerre, on peut dire, donc on a appréhendé tout un nombre de problèmes. Et effectivement, dans ce cadre-là, Médecins du Monde France, qui est notre partenaire sur l'accompagnement médico-social, donc Médecins du Monde France, qui est implanté ici en tant que partenaire, n'est-ce pas, stratégique de l'AME et de l'ARASEM sur l'accompagnement des migrants, Médecins du Monde a, n'est-ce pas, sollicité deux missions parallèles, une mission à la frontière Tunisie-Libye, principalement à Choussa, où beaucoup de Maliens arrivaient, et une autre mission MDM-ARASEM à la frontière Libye-Égypte. Donc on peut dire que dès le départ, nous quand même qui sommes au quotidien en contact avec les migrants et connaissant leurs problématiques, nous-mêmes étant des migrants, nous avons vu qu'il y aura des besoins qui vont arriver, donc on s'est projeté en avance. Sans plus tarder, les acteurs même sont là. Je vais donner la parole à M. Oumar Sidibé qui était dans la mission. Il va vraiment vous intervenir et donner ses informations et ses analyses sur les activités qu'ils ont faites. Monsieur Ousmane Sidibé, Oumar Sidibé, s'il vous plaît.
Merci, monsieur le modérateur. Merci de m'avoir donné la parole. Je commence par remercier encore une fois nos amis de la presse écrite pour avoir bien voulu répondre à notre sollicitation encore une fois de plus. Alors cela dit, compte tenu de la situation qui prévalait en Libye, donc il y a eu des afflux massifs de réfugiés vers les frontières libyennes, vers l'Égypte, vers la Tunisie, aussi vers le Niger. Mais en ce qui nous concerne, on va plutôt parler du côté de la Tunisie. Donc, compte tenu de tout cet afflux de réfugiés, donc, comme l'a dit mon collègue, Médecins du Monde France, qui est un partenaire de l'AME, nous a sollicité pour une mission d'assistance humanitaire. C'était vraiment l'objet de la mission. Maintenant, ça c'était depuis dès le début de la crise. Hein. Donc, il y a eu d'abord une première délégation qui est allée, qui a été après rejointe par une deuxième délégation qui était composée que d'une seule personne. Maintenant, sur place, à travers les activités menées, à travers ce qu'on a pu observer, donc, il me semble important de donner une appréciation à travers nos analyses et nos vécus. Parce que il me semble qu'il n'y a pas une visibilité sur cet aspect de la chose. Qu'est-ce qui s'est passé à Choussa? Quand la crise a éclaté, il s'est trouvé que il l'a dit, mon collègue, environ une vingtaine de nationalités, mais c'était beaucoup plus que ça. C'était, je crois, 29 à 30 nationalités qui se sont retrouvées bloquées en Libye et qui ont fini par pouvoir être acheminées vers le camp de Choussa. C'est un camp qui était situé à environ 7 km de la frontière libyenne. Donc, en ce qui concerne la mission, on avait résidence dans une ville voisine qui était à peu près à 25 km, ce qui fait que on avait quotidiennement la navette entre cette ville de Benghaden à Choussa qui était distante d'environ 25 km. Donc comme je l'ai dit tantôt, l'objet de la mission c'était une assistance humanitaire d'urgence. Les activités menées sur place, c'était de regrouper les gens sous groupe et puis de les entretenir, de les informer, de les orienter et surtout de les soutenir psychologiquement. Et pour cela, la mission Mali comportait en son sein un psychologue clinicien, donc pour pouvoir apporter ce soutien psychologique-là à ces personnes. Donc, sans oublier que l'AME, même dans le cadre toujours de ce partenariat, les intervenants de l'AME avaient déjà bénéficié de formations pour pouvoir assister psychologiquement toutes ces personnes en situation de retour forcé. Donc, au camp, il s'agissait de voir ces personnes-là, de les écouter et de les orienter. Donc, pour ce faire, la deuxième partie de la mission, je vais laisser la première partie au psychologue qui va en revenir en détail, mais je veux vous dire en termes de chiffres clairs que 218 Maliens ont pu bénéficier directement d'un soutien psychologique de la part de la mission. Ça, c'est à travers Achoussa, ça, c'est à travers les groupes de parole qui ont été organisés par la mission. Au-delà de ces groupes de parole, individuellement, cette personne que la mission avait repérée, avait jugée plus traumatisée que les autres, ont pu bénéficier d'un entrain de soutien psychologique individuel. Parmi les 218, il y a plusieurs nationalités ressortissantes de la sous-région ouest africaine, notamment des Guinéens de Conakry, des Guinéens de Bissau, des Gambiens, des Sénégalais et surtout des Ivoiriens. Parce que la particularité de ces Ivoiriens-là était qu'ils étaient ressortissants d'un pays qui était en crise. Donc ça, peut-être on va en revenir dans la discussion. Donc, il y avait un problème par rapport à leur rapatriement vers leur pays, parce qu'ils n'étaient pas prêts vraiment à retourner dans un pays en crise. Donc, voilà un peu à ramasser ce que la mission a eu à effectuer comme travail au camp. Mais je veux vous dire que dans ce camp HR de Choussa, c'est que il y avait tout un dispositif vraiment mis en place pour pouvoir répondre aux premiers besoins de ces réfugiés-là. Donc il y avait la restauration, il y avait des hôpitaux installés, il y avait un centre d'appel où les personnes pouvaient rentrer en contact déjà avec la famille ou les amis restés sur place, parce que là aussi c'était une préoccupation majeure, parce que certains n'avaient pas pu quitter. Donc voilà en gros à ramasser ce que la mission a eu à effectuer. Je retourne la parole au modérateur Alassane Diko.
Merci beaucoup, M. Sirbé. Bravo pour votre courage, parce que ce n'était pas facile de se retrouver à la frontière, à cheval entre deux espaces en crise. C'était la Tunisie qui était dans sa révolution, dans sa deuxième phase, n'est-ce pas, de recherche, d'orientation de cette révolution, et un autre pays qui vient de déclencher sa révolution et qui s'est fait sous le feu. Et donc vous avez travaillé, on peut dire, sous le feu, à tout vent, dans le désert, en train d'aider ces milliers de subsahariens et aussi de compatriotes maliens qui étaient encastrés dans ce camp. Je me rappelle bien que, en dehors de l'assistance humanitaire, sinon ajouté à l'assistance humanitaire, j'étais dans la première équipe de la mission. Nous avons, pendant 4 jours, je m'étais attelé avec les collègues des MDM et même le psychologue à ajouter encore un axe sur notre travail, c'est-à-dire la médiation même. La médiation pour calmer les Maliens, qui étaient des milliers, les calmer, discuter avec eux dans nos langues nationales, en Bambara. Il y avait 2 majorités de Maliens au camp là-bas. Il va en parler. C'est des ressortissants de Kita et les ressortissants du Nord, en Soreille. Heureusement que moi, je comprends Soreille. Ils étaient même les plus nombreux. Des gens qui arrivent très affectés, qui ne savent pas où aller. Et ils n'avaient pas de documents. La plupart n'avaient pas de documents. En plus de l'assistance humanitaire, on s'est retrouvé en tant que médiateur même. On a interpellé notre consulat, le consulat du Mali à Tunisie, pour leur dire de nous envoyer quelqu'un sur place. Au deuxième jour, ils nous ont envoyé le conseiller de l'ambassadeur. On l'a mis avec nous pendant 3 jours pour trouver des papiers, des laissez-passer, nous aider à organiser le rapatriement effectif de ces Maliens-là. Rien n'était mis en place. Nous avons suscité cette mise en place et coordonné avec l'OIM pour que les premiers rapatriements arrivent. Pendant que les autres collègues sont en train de faire tout ce support psychologique. Il faut dire qu'après 5-6 jours déjà, les communautés déjà commençaient à se taper dessus. Des mouvements de foule commençaient à se faire sentir, la colère montait. Donc c'était difficile à gérer déjà. Je vais donner la parole à M. Jean-Richard Thiénou, qui était vraiment l'ossature de la mission à la frontière tuniso-libyenne. C'est le psychologue. Il est du réseau de praticiens, psychologues et médecins de l'AME, à qui et vers qui on réfère les migrants qui ont eu, n'est-ce pas, des troubles post-traumatiques dans leur parcours migratoire. Monsieur Jean-Richard Thiénou, le psychologue, je vous donne la parole pour que vous nous édifiez sur les conditions d'arrivée, sur l'état même physique et mental des personnes et dans quel état nous les avons laissés. Sachant qu'aujourd'hui, depuis le 25, ce camp a totalement brûlé. Ce camp a brûlé. Et Keïta serait là, il va nous dire, le dernier vol charter qui a ramené les derniers Maliens est arrivé hier ou avant-hier. Lui aussi, il va en parler. Je laisse la parole à M. Thiénou.
D'accord, merci à tous. Alors, moi je vais surtout essayer d'être le plus scientifique possible. Et certainement dans un premier temps et dans un deuxième temps, d'essayer de faire juste un tout petit peu de plaidoyer. Alors, ce que je vais dire, ce n'est pas de la propagande, mais c'est plutôt des réalités du terrain. C'est des réalités du terrain. D'abord, dire les conditions dans lesquelles nous avons travaillé au camp de Choucha. Alors, déjà, quand vous arrivez en Tunis, vous devez prendre un avion pour Djerba, une île. Et de Djerba, vous arrivez à Ben Garden. Djerba, Ben Garden, ça fait 100 km. Et de Ben Garden maintenant au camp de Choucha, ça fait à peu près une trentaine de kilomètres. Donc c'est au camp de Choucha où nous avons travaillé. Où on travaillait de 8h à 22h du soir. Donc ça c'est important. Donc nous avons retrouvé l'équipe de MDM, du siège de MDM de France qui était sur place, avec un médecin et un logisticien. Donc c'est ceux avec qui nous avons travaillé. Et pendant tout ce temps, et le travail quand même a été fait. Alors, parce que en partant, moi j'étais avec Alassane, qui après a eu il y avait une autre situation où Alassane était obligé de rentrer, m'a laissé seul, et Sidibé qui m'a rejoint pour qu'on puisse continuer le travail. Dans le camp de Choucha, il y avait d'abord deux hôpitaux, un hôpital militaire et marocain. D'abord, dans un premier temps. Et c'est 4 jours ou 5 jours après que l'hôpital tunisien a aussi ouvert ses portes, qui était un hôpital militaire tunisien. Donc c'était les deux hôpitaux. Donc il y avait tous les services de restauration, les services d'hébergement, etc. Comment nous on travaillait? On travaillait sous les tentes dans lesquelles dormaient les rapatriés. C'était dans ces tentes. On avait deux tentes sous lesquels on travaillait. Et dans ces tentes, on arrivait à faire nos activités. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes les seuls représentants. Nous avons été les seuls représentants du Mali sur place. Ce n'est pas le gouvernement malien qui nous a envoyés. C'est MDM, une ONG humanitaire. Quand on dit aujourd'hui que le gouvernement malien a envoyé des gens là-bas pour soutenir les Maliens, c'est archi faux. Nous étions sur place. Nous, on ne ment pas. C'est nous qui avons interpellé le consul du Mali à Tunis, qui a envoyé son représentant et qui n'avait même pas où travailler. Et c'est nous qui lui avons permis de travailler sous nos tentes avec nous. Donc je pense que certaines réalités sont bonnes à être dites. Ça c'est important. Et on se rend compte que les gens, dans ce genre de situation, les gens ne blaguent pas. Mais si j'ai dit les gens ne blaguent pas. Et vous savez, l'équipe de MDM qui était composée d'un médecin, d'un psychologue, d'un logisticien et de deux travailleurs sociaux. Quand vous prenez par exemple l'équipe de l'UNICEF, l'UNICEF avait à peu près 4 psychologues. Ce n'est pas l'UNICEF Mali, hein. Ce n'est pas l'UNICEF Mali. Il y avait l'équipe de MSF, Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières qui avait environ 4 psychologues. Et vous avez le FINIAP qui avait 14 psychologues qui travaillaient sur le terrain. Et l'équipe de MDM avait seulement un psychologue. Et c'est grâce d'ailleurs à MDM qu'il y a eu un psychologue malien sur le terrain. Vous savez, dans des situations comme ça, quand vous rencontrez des gens en détresse, une fois que vous parlez leur langue, c'est très important. Alors c'est ce qui a été notre atout. Notre atout qui nous a permis pratiquement de cibler toutes les communautés de l'Afrique de l'Ouest et subsaharienne. Sénégal, vous savez, les Sénégalais, il y a une partie qui parle Bamara. Il y avait une partie, par exemple, des Gambiens qui parlent Malinké, que nous on comprend. Vous avez parlé des Burkinabés qui parlent Bamara. Vous avez les Ivoiriens qui parlent Bamara. Donc à nous seuls, on arrivait, on s'est intéressé à toutes ces populations. Et nous avons été une sorte de référence pour ces personnes. Et avant qu'on quitte, du début de nos actions jusqu'à ce qu'on quittait, il y avait plus de 3500 Maliens qui vivaient dans les camps et qui étaient en train de partir. Plus de 3500 Maliens. Alors que tout le camp, il y avait à peu près 20 000 personnes et plus de 15 000 Bangladais. Quel est le travail que moi, en tant que psychologue, j'ai fait? Dans un premier temps, j'ai organisé ce qu'on appelle des groupes de parole. C'est des groupes de parole qui ciblent une dizaine de personnes. Hein? Parce qu'une fois qu'on dépasse une dizaine de personnes, c'est difficile. Et comment on les organisait? On les organisait sous une de nos tentes. D'accord? Et on allait, parce qu'on savait où se trouvaient les Maliens, ils se sont regroupés en un endroit bien déterminé. Les Ivoiriens, la même chose. Les Sénégalais, etc., c'était la même chose. Et par rapport à ça, moi j'ai effectué 33 groupes de parole. 33 groupes de parole qui m'a permis d'être en contact individuel avec 284 personnes, dont 6 femmes et 4 enfants. 6 femmes de 4 enfants de 0 à 3 ans. Les enfants de 0 à 3 ans qui se retrouvent dans ces conditions. Et nous avons aussi, j'ai effectué également des entretiens individuels, hein, sous une tente avec un peu plus de calme, d'intimité également, et qui ont ciblé beaucoup, 38 personnes. Et parmi ces personnes, les troubles qui étaient les plus fréquents, c'était d'abord les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles de sommeil, etc. Mais parmi ceux-ci, on a eu surtout un cas de psychose, de trouble mental aigu qu'on appelle la psychose, et que moi j'ai référé au service de psychiatrie parce que ça relève de la compétence du service de psychiatrie, et c'est ce qui nous a permis de donner des soins de santé mentale à cette personne. Il y avait également un cas de trouble épileptique, l'épilepsie, hein, qui a été également prise en charge. Voilà un peu quelques personnes qui ont été prises en charge. Parmi ceux-ci, on avait à peu près une dizaine également de malades et de blessés par balles. Des gens qui avaient encore des balles dans leurs pieds. Les balles n'étaient pas enlevées. C'était des gens qu'il fallait soutenir. Si on ne soutenait pas, on ne pouvait pas du tout aller. Alors, donc on a pu soutenir ces personnes. Et pour certains, pour un, les balles ont été extraites sur place. Pour d'autres, on les a plutôt référées ici. D'abord, on a été confronté à une réticence des Maliens. Parce que les Maliens, à un moment donné, puisque les hôpitaux sont tenus par les Marocains, les Maliens ne faisaient plus la différence entre un Marocain et un Libyen. Puisque, en Libye, on refusait de les soigner. On refusait de les soigner. Les témoignages sont là. J'ai un rapport d'une trentaine de pages. Les témoignages sont là. Donc on refusait de les soigner. Donc ils se disaient, on ne va pas dans les hôpitaux marocains parce que Oubey Kelly a bien sur accordé. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une généralisation. Quand on généralise, donc notre travail consistait aussi à les faire comprendre que ici, ceci là, c'est différent. Ceci, ce n'est pas des Libyens, c'est des Marocains. Et c'est des gens qui sont là à titre humanitaire, comme nous également. Donc c'est ce qui a permis également à ces personnes d'accepter de se faire soigner. Sinon, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. On a rencontré des gens qui ont été dépouillés par des militaires libyens,
par des jeunes insurgés, par la population. Il y en a qui ont été victimes de lynchages, des traitements à caractère, qu'on pourrait dire, à caractère racial, des attouchements sexuels sur femmes. Les femmes nous disent que quand elles sortaient, même les couches de leur bébé étaient fouillées pour savoir si elles n'ont pas caché, par exemple, un téléphone ou de l'argent. Ils ont tous été dépouillés sur la route. Ça, c'est une réalité. Tous étaient dépouillés sur la route. Vous voyez, en longueur de journée, des Maliens qui ont fait, par exemple, 5 ans, 10 ans en Libye, mais qui viennent au camp avec seule fortune, une petite valise. Ça, c'était les plus chanceux. Ça, c'était les plus chanceux. Sinon, il y avait bon nombre qui venaient comme ça, avec une chemise et un pantalon. Et pourtant, ils ont travaillé dans ce pays pendant plus de 5 ans, pendant plus de 10 ans. Toute l'économie qu'ils ont pu faire a été confisquée, et soit confisquée ou volée par la population. Alors, par rapport à ça, je voudrais seulement partager avec vous le témoignage d'une dame, d'une jeune femme malienne de 19 ans. Et elle est mariée, mère d'une fillette de 9 ans. Et ce jour, elle est accompagnée de son mari qui vivait en Libye depuis 15 ans. Alors, pour pouvoir discuter avec cette femme, je l'ai rejoint sous sa tente. Et lors de l'entretien, elle évoque surtout ses vécus avant et pendant la crise libyenne. Même si en cours de route, les femmes n'ont pas été fouillées, cependant les couches de son enfant ont été fouillées pour savoir si elle n'y avait pas caché de l'argent ou son téléphone. Vivant en Libye, elle rapporte que souvent les boutiquiers refusaient de lui vendre des articles, ou soit les lui vendaient encore plus cher que d'habitude. Elle rapporte une agression physique par un taximan. Qu'elle avait emprunté. Ce taximètre aurait tenté de l'étouffer avec son propre foulard avant de s'emparer de son propre monnaie contenant son argent, ses pièces d'identité et son téléphone. Le refus de vacciner son enfant depuis sa naissance, l'accès du centre de santé étant interdit par les policiers à tout noir. Et ça, c'est avant la crise. C'est avant la crise. Elle évoque également des attouchements à caractère sexuel perpétrés sur sa personne et dans la rue par des jeunes Libyens alors qu'elle se rendait à la boutique avec son mari. Et lorsque son mari a voulu réagir, il a été agressé avec des couteaux par des jeunes gens qui, sans l'intervention d'une vieille personne, l'auraient grièvement blessé. Et cette dame est surtout choquée par ses vécus, par tous ses vécus, cette injustice, la peur permanente, puisque elle est obligée de se cacher dans sa chambre avec ses enfants. Selon elle, c'est fini la Libye, c'est fini la migration, nous rentrons chez nous au Mali, même si nous devons manger de la terre. Voilà le témoignage de cette dame que j'ai voulu. Et vous savez, nous avons... pour être le plus exact possible, 31 témoignages. 31 témoignages pour être le plus près possible, le plus juste possible. Et en même temps, il y avait une dame chargée du plaidoyer de MDM, de MDM France et surtout du siège, qui est arrivée sur le terrain et qui a fait également des recueils de témoignages qui doivent normalement être publiés, mais pour le moment, pour des raisons de sécurité qui ne le sont pas. Mais je peux partager déjà cette expérience avec vous. Vous voyez, alors, on se rend bien sûr compte que ces maltraitances à caractère raciste ont bel et bien existé en Tunisie, existent en Tunisie, et j'ai dit en Libye, bien avant les conflits. Et quand les conflits ont éclaté, ça a renforcé encore ces maltraitances. Et vous avez aussi d'autres cas de personnes qui ont été mutilées, les doigts complètement coupés, suite à des accidents de travail ou tout simplement parce qu'ils ont été lynchés par la population.
et ces personnes n'avaient accès à aucun soin de santé. Et vous savez, les Maliens sur place, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit par exemple que même s'ils tombent malades en Libye, sachant bien que même s'ils vont à l'hôpital, ils ne seront pas soignés, ils ont un médecin comme ça, voilà, on ne sait même pas si c'est un médecin, qu'il paye, qu'il essaie de tourner un peu entre les foyers pour donner des médicaments. Et il se trouve que celui-là n'arrive pas aussi à soigner tous les problèmes de santé et finalement, certains meurent dans ces conditions. Ou tout simplement sont obligés de retourner alors au pays. Voilà les conditions dans lesquelles nous avons travaillé. Voilà les souffrances des Maliens. Voilà leur vécu. Et voilà le travail également que nous avons fait. Moi, ça c'était dans un cadre purement scientifique. Et cela peut être, je ne sais pas, vérifié par tout journaliste ou par tout scientifique qui souhaiterait travailler dans ce contexte-là. Pour faire un tout petit peu de plaidoyer, qui sort un peu du cadre scientifique.
Le son, s'il vous plaît.
Le son. Oui, je sers un peu du cadre scientifique, mais pour faire un peu de plaidoyer. Nous, quand nous sommes arrivés et que les subsahariens ont appris que, il y a des Maliens qui sont venus pour aider les Maliens, je vous dis qu'on a été complètement débordés. On avait juste deux petites tentes. Chaque tente avait une capacité d'accueil de 8 personnes. Mais devant les tentes, on avait un attroupement de plus de 1000 personnes. Parce qu'il y avait enfin des personnes qui ressemblaient à eux et des personnes qui voulaient les écouter. Et nous avons pratiquement représenté en ce moment toute l'Afrique de l'Ouest. Mais ça, ce n'était pas notre travail de représentation. C'était au gouvernement d'envoyer des représentations. Cela n'a pas été fait. Malgré ce qui est dit à la télé, malgré ce qui est montré, malgré ce qui est dit à la radio, malgré ce qui est des fois dit dans les journaux. C'est archi faux. Nous, on a passé 10 jours dans le camp, en plein désert et dans le froid. Nous savons la réalité. C'est grâce à nous que le premier conseiller du consul de la Tunisie est venu travailler. C'est grâce à nous, c'est nous qui l'avons dit. Bon, monsieur le consul, monsieur le premier conseiller, voilà, nous sommes dans les tentes, on va partager une première tente et dans la première partie, vous allez rester. Juste pour pouvoir établir des laissez-passer, des documents de voyage. Et je dis encore que toutes les personnes qui ont été rapatriées de la Libye et surtout de l'ambassade de la Libye en Tunisie, l'État malien n'a pas déboursé un franc. C'est les migrants eux-mêmes qui ont tous payé 30 dinars. 30 dinars libyens. Les collègues sont là, ils peuvent le démentir, ils peuvent le confirmer. Ils ont tous, chacun, malgré leurs difficultés, malgré le fait qu'ils ont été dépouillés, malgré le fait qu'ils ont perdu toute leur économie, leur richesse, on leur a dit, si vous voulez rentrer chez vous, vous devez payer 30 dinars. Ils ont payé 30 dinars. Et c'est comme ça qu'ils ont été rapatriés de la Libye au camp de Choucha en Tunisie. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les rapatriements du camp de Choucha à Djerba et de Djerba au Mali. Il n'y avait pas un seul représentant de l'État malien. C'était l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, qui a mis les agents à disposition et qui a organisé les rapatriements. Et l'OIM était obligé de venir nous voir pour qu'on puisse des fois établir des listes de priorité. Des listes de priorité pour les malades, pour les blessés, pour les familles et pour les enfants, les femmes et les enfants. C'est nous qui avons fait ça. L'État malien n'a pas fait quelque chose dans ce cadre-là. Je pense que c'est important qu'on puisse faire des mises au point. Voilà des réalités, je pense, qui sont importantes à être connues par la population. Je n'ai rien contre le fait que, ou nous n'avons rien contre le fait que la population se lève et porte soutien à Kadhafi. Mais je pense qu'il est de notre devoir d'informer et d'informer justement cette population. de dire voilà la réalité du terrain, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui a été fait, voilà celui qui a fait quoi, voilà la réalité. Donc en gros, voilà ce que je peux dire. Peut-être que dans les questions, on pourra aller un peu plus en profondeur. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Richard Thiénou. Merci pour tout votre soutien auprès de l'AME, pour tout votre soutien auprès de l'ARACEM. Merci pour l'engagement que vous avez pris de constituer un réseau de praticiens locaux. C'est-à-dire que dans cette problématique, en jonction et en connexion de l'international vers le pays d'origine, qui transporte, n'est-ce pas, des effets physiques et mentaux sur les personnes. Et intervenant dans cette problématique, nous avons décidé et voulu travailler avec des praticiens nationaux. Ça aussi c'est très important. D'autres travaillent avec des spécialistes expatriés, comme s'il n'y avait pas de compétences dans nos pays. Nous sommes compétents. Donc nous travaillons efficacement avec nos maigres moyens, pour peu que nous pouvons faire, nous le faisons nous-mêmes avec nos compétences locales. Nos médecins sont maliens, nos psychologues sont maliens, nos psychiatres sont maliens et nous référons dans le service public malien. C'est bon à savoir que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt général, c'est pour le bien-être public. Et il est bon aussi que, même si on a fait 1 sur 1000, qu'on le fasse savoir et qu'on témoigne, comme l'a dit. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je voulais faire la transition avec maintenant l'OIM et tout, ils arrivent au Mali par vague. On va donner la parole à M. Keïta. Mais avant, M. Roméo Thomas, président de l'ARACEM, qui est aussi partenaire avec l'AME et MDM sur cette problématique, qui a été projetée à la frontière avec l'Égypte, qui va nous édifier aussi sur l'autre versant de ce comment ça s'est passé. Parce que ce sont de ces deux côtés que les rapatriements se sont faits, en plus maintenant de tout le lot de migrants qui eux-mêmes se sont débrouillés pour avoir des camions, pour quitter la Libye aussi, au risque de leur vie, mais en perdant tous leurs biens, en prenant des camions pour traverser par l'Algérie et arriver à Gao. Parce qu'il y a cet axe aussi qui est là, qui est le troisième axe. Mais je voulais seulement terminer pour dire que tellement nous nous sommes déployés et nous sommes intéressés à ce que nous faisons, et tellement les subsahariens, les maliens, sénégalais, guinéens et autres dont M. Thiénou a parlé, nous étions débordés, mais à notre grand plaisir, parce que c'est pour ça que nous sommes partis. Les somaliens et les érythréens sont venus s'augmenter au lot. Ils disent, ah bon, vous vous occupez que des maliens, nous on est somaliens, on enlève le sceau et on est mali, on est là, occupez-vous de nous. Mais ils étaient là, hein? Ils enlèvent le sceau, ils sont maliens. Ils sont avec nous. Ils disent, parce que dans le camp, ils n'ont pas vu des groupes qui s'occupent vraiment des gens comme MDM. Même le HCR, le système de l'OIM même venait être avec nous pour travailler pour les recensements, pour les trucs. On est allé pour travailler. Que ceux qui ne travaillent pas se taisent. Et ceux qui travaillent disent ce qu'ils ont fait. Et maintenant, M. Roméo, qu'est-ce qui était et qu'est-ce qui s'est passé pour l'autre vague qui s'est échappée vers l'Égypte, en sachant bien que les gens de la Tunisie, ceux qui sont venus en Tunisie, ils ont eu 1000 chances. Parce qu'en Égypte, les autorités égyptiennes ont refusé que le HCR construise des tentes. Donc les gens dormaient en plein air. Monsieur Tamak Roméo.
Ok, ben bonjour à tous. Merci Dico de m'avoir passé la parole. Je vais commencer d'abord par le contexte du voyage. Vous savez, comme l'a si bien dit Dico d'entrée de jeu, on allait dans deux pays qui sortaient fraîchement d'une nouvelle révolution. Donc déjà les tensions au sein des pays même étaient déjà difficiles pour nous qui devions arriver. Moi je me rappelle que je suis arrivé en Égypte à presque 1h du matin sous un couvre-feu. Et il fallait que je traverse la place Tahrir. Pour ceux qui le connaissent très bien, c'est la place où a eu toute la révolution égyptienne. Et j'ai été amené au service secret d'abord avant de pouvoir regagner mon hôtel. Parce qu'ils ne savaient pas si c'était un nouveau commando qu'on avait fait venir ou quoi. Donc j'étais obligé de passer par des portes de service secret pour pouvoir arriver à l'hôtel. Et malheureusement pour moi encore, mon équipe était constituée d'une franco-syrienne et d'un palestinien. Donc ça faisait déjà trois hors la loi. Un Camerounais, une franco-syrienne et un palestinien. Le palestinien était le docteur et la franco-syrienne était notre coordinatrice Tamara. Il faut savoir qu'au niveau de la frontière entre l'Égypte et la Libye, précisément c'est Saloum, S-A-L-O-U-M, la frontière est située à 800 km du Caire. Ça fait environ 12 heures de voyage. En véhicule, il n'y a pas d'avion. Donc très tôt le matin, il fallait emprunter une voiture Médecins du Monde pour se taper ces 12 heures de voyage et aller une fois sur le terrain. Pourquoi ? Parce que la mission MDM était attendue. Il faut aussi notifier que moi j'ai été envoyé à ce lieu par rapport à ma maîtrise linguistique de certaines langues, français, anglais, un peu espagnol aussi. Parce que là-bas, à cette frontière, pratiquement les gens ne parlent pas français. Les Égyptiens parlent anglais et tous les représentants des organisations internationales qui étaient là-bas avaient pour première langue l'anglais pour pouvoir déjà communiquer avec les dirigeants égyptiens qui étaient sur place et avec les autres nationalités. Donc j'étais un peu attendu là-bas en tant que responsable de l'outreach. Ça veut dire mon travail au niveau de la frontière entre l'Égypte et la Libye était en fait d'aller recenser toutes les communautés présentes au niveau de la frontière. Il y avait 27 communautés. Je devais, très tôt le matin, me rendre auprès de toutes ces communautés pour recenser quels sont les besoins, pour recenser quelles sont les difficultés, pour revenir dans l'après-midi au meeting de coordination qui était organisé avec toutes les ONG pour pouvoir leur donner les informations. Et c'est à travers ces informations qu'ils planifiaient ce qu'il fallait faire au sein du camp. Donc c'était un travail très fatigant. J'étais la seule personne à le faire avec mon badge. Il y a des photos, pour ceux qui voudront, après ils peuvent laisser des mails, je vais envoyer des photos. Et au bout de trois jours, je me suis même évanoui à l'hôtel parce que j'étais très fatigué. Tard dans la nuit, je me suis évanoui à l'hôtel parce que j'étais très fatigué. Nous, on logeait à 7 km de la frontière. Pour ceux qui ne sont jamais allés là-bas, Saloum est, c'est l'Égypte et la Libye ont une frontière naturelle, c'est une chaîne de montagnes. Donc il y a une petite ville au bas de la colline et la frontière est au niveau du plateau. Donc à chaque matin quand il fallait se rendre là-bas, on allait, le Palestinien, la franco-syrienne et moi, déposer nos passeports au niveau du service secret pour entrer dans le camp. Et le soir, très tard quand nous rentrions, on repasse au service secret pour leur signaler que nous sommes en train de sortir du camp et récupérer nos passeports. Quand je suis arrivé, il y avait déjà 11 000 personnes qui avaient pu être rapatriées, parmi lesquelles, je pense, 850 Maliens. Il y avait une première mission sous demande des autorités égyptiennes et de l'OIM, une première mission de l'ambassade du Mali au Caire qui était venue et qui avait fait une journée. Ils sont repartis. Et les 20 000 personnes que moi j'ai trouvées, les trois quarts n'avaient pas de papier d'identification. Il y avait des Tchadiens qui étaient à 5 000, des Soudanais, des Bangladeshis, des Camerounais, des Nigériens, des Bénins, des Sénégalais et 375 Maliens. À cet endroit, c'est le désert. Il y a des vents de poussière, des tempêtes de poussière. Et les autorités égyptiennes ont refusé catégoriquement qu'il y ait une seule tente qui soit montée à cet endroit. Donc tous les migrants dormaient dehors. On leur avait donné des nattes et des espèces de couvertures qui n'étaient pas très solides. Donc il y avait beaucoup qui étaient déjà malades. Donc Médecins du Monde, on a pu organiser une petite clinique mobile. Et après, il y a eu le WHO, dont l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est arrivée avec beaucoup de médicaments, beaucoup de médecins et beaucoup de psychologues qui se sont joints à MDM pour pouvoir diriger la clinique qui était déjà mise en place. C'était vraiment terrible là-bas. Donc, au lieu de faire mon travail avec Médecins du Monde et Outreach, je servais également de point focal aux différentes représentations diplomatiques qui n'arrivaient pas, les consuls et les conseillers n'arrivaient pas à se faire 12 heures de voyage par route pour venir s'occuper de leurs ressortissants. Du coup, il y avait une fiche où étaient marqués tous les contacts des ambassades et des communautés présentes. Moi, j'ai appelé dans toutes les ambassades pour pouvoir leur dire, bon, moi, je suis à Saloum,
Et s'il y a un problème, est-ce que je peux les contacter pour qu'à travers ma boîte email, ils puissent envoyer des laissez-passer des gens qui doivent partir. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Donc je servais de point focal pour l'ambassade du Cameroun, du Mali, parce qu'après il y a le premier conseiller Aïdara, qui est à l'ambassade du Mali au Caire, qui m'a rejoint là-bas, du Nigeria, du Burkina Faso, du Sénégal et de la Guinée. Parce que l'ambassadeur de la Guinée qui était au Caire, il a dit qu'il ne peut pas venir. Ça fait 6 mois qu'il n'est pas payé. Le gouvernement a été renversé. Et lui, il ne voit pas ce qu'il va venir faire là-bas. Donc les Guinéens étaient pris au même titre que les Camerounais. C'est l'ambassade du Cameroun qui servait de lien pour la Guinée. Donc ce qui s'est passé, quand les nouveaux, parce qu'on était à 450 km de Benghazi, vous pouvez vous en rendre compte. Et Benghazi, c'était le lieu où il y avait déjà les rebelles. Et les rebelles ne voulaient pas voir les Noirs, parce qu'ils se disaient que Kadhafi avait enrôlé les Noirs pour combattre contre eux. Donc tous ceux qui passaient là-bas étaient lynchés. Alors il y avait des arrivées toutes les nuits. Et la police a dû mettre des barrières de fil barbelé pour empêcher les Tchadiens, les Camerounais, les Nigériens de lyncher les Libyens qui arrivaient. Parce qu'il y avait aussi les Libyens qui fuyaient. Et quand ils arrivaient, les autres communautés subsahariennes se jetaient sur les Libyens pour vouloir les lyncher comme on a lynché les frères qui étaient à Benghazi. Donc il y avait des tensions énormes au sein du camp. Donc quand il y avait de nouvelles arrivées, le matin très tôt, on me contactait. C'est moi qui amenais, j'ai recensé les noms. J'allais voir le CICR qui faisait appel à ces personnes, les photographier et maintenant envoyer les photos par email aux différentes ambassades qui dressaient les laissés-passer et renvoyaient les laissés-passer dans ma boîte email. Quand on tirait donc maintenant les laissés-passer, on allait voir l'OIM pour programmer les retours. Donc, que ce soit tous les pays qui étaient là-bas, aucun gouvernement n'a dépensé 5 francs pour permettre à ces ressortissants d'être rapatriés. Cela a été fait grâce au CICR et à l'OIM. CICR pour l'identification et l'OIM pour s'occuper des rapatriements. Les rapatriements, c'était dans 2 aéroports. L'aéroport de Caire pour les personnes qui étaient moins fatiguées, à 800 km. Et l'aéroport d'Alexandrie qui était à 300 km. Pour les personnes blessées par balle, parce qu'il y avait des personnes paraplégiques qui étaient là-bas. Il y avait des femmes enceintes qui étaient aussi rapatriées. Donc, sur presque 30 000 personnes qui sont passées là-bas, il n'y a que eu 300 personnes qui ont eu bénéficié du statut de réfugié par le ACR. 300 personnes. Un Congolais, un Sénégalais, quelques Somaliens et d'autres personnes qui venaient d'une petite région entre l'Éthiopie et quoi qu'on appelle Rouen. Moi, je ne connaissais pas. Ils ont appelé Rouen. C'est entre l'Éthiopie et la Somalie, je ne sais pas trop. Ils sont de Rouen. Ils ont dit Rouen. Donc il y a eu 3 personnes qui ont bénéficié du statut de réfugié. Et le gouvernement égyptien était en train de menacer le ACR et l'UNICEF d'évacuer tout le camp parce qu'ils ne voudraient pas qu'il y ait des tentes comme à Choucha. Parce que quand on met dans des tentes, ça veut dire que les gens vont rester plus longtemps. Donc le ACR était en train de voir si ils peuvent avoir une autorisation du gouvernement égyptien pour ramener le camp au moins à Alexandrie pour pouvoir héberger ces 300 personnes. La première difficulté qu'il y avait aussi, il y a certains Maliens et certains Sénégalais surtout, qui restaient au camp alors que d'autres personnes étaient parties avec le laissé-passer. Pourquoi? Parce que les Égyptiens qui faisaient l'appel, je vais vous envoyer les photos, c'est moi qui faisais aussi l'appel des noms pour les personnes à être rapatriées, pour les Maliens, les Sénégalais, les Camerounais. Parce que les Égyptiens ne prononçaient pas la totalité des noms. Quand ils avaient la liste, ils disaient « Camara ». Alors, il y avait 3 ou 4 camarades qui venaient vers eux. Et le premier à monter dans le bus, c'est lui qui partait. Une fois donc arrivé à Alexandrie, bien au Caire, quand on regarde le laissé-passer, c'est camarade, mais la photo qui est sur le laissé-passer, le vrai camarade, lui, il est resté. Donc, il y a eu ce problème de confusion où ils se sont dit que non, les migrants sont en train de falsifier les documents alors que ce n'était pas vrai. C'était eux qui accusaient. Il fallait dire, c'est du camarade ou bien tel camarade ou soit camarade. Donc, pendant 4 jours, les 374 Maliens qui étaient là-bas, il y a certains même qui sont à Niamakoro où je loge, qui sont revenus, qui sont avec moi, qui passent tout le temps au centre là-bas, ils ont pu être rapatriés. Donc en fait, c'était un peu ça. Il faut savoir que là-bas, il manquait parfois d'eau potable parce que l'UNICEF n'arrivait pas à gérer. Il fallait redescendre, il y a la mer à côté, mais l'eau qui montait était trop salée. On pouvait pas dire, il fallait la retravailler. Les turbines aussi ne fonctionnaient pas parce que l'électricité là-bas était coupée tout le temps. Donc c'était un coin où il y avait d'abord des tensions intercommunautaires, les Tchadiens qui se battaient entre eux. Il y a même un gars tchadien qui a été poignardé parce qu'il n'avait aucune information. Les représentants des ambassades n'arrivaient pas et ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils devaient être rapatriés alors que d'autres personnes rentraient déjà chez eux. Certains voulaient faire la grève de la faim, d'autres ne voulaient pas et ça menait des bagarres. Au point où ils se poignardaient entre eux, les Tchadiens. Il y a plusieurs Tchadiens qui sont morts là-bas à la frontière. Donc en fait, voilà un peu le travail que nous avons pu faire là-bas. Et quand je revenais, Dieu merci, il ne restait que 2000 Tchadiens à qui on était en train de faire les recensements aussi pour être rapatriés. Les Bangladeshis, leur gouvernement a envoyé des avions qui sont venus les récupérer. Les Soudanais, on les prenait en gros camion, ils avaient 5 jours de désert jusqu'à Khartoum. Et le reste des nationalités étaient rapatriés par avion. Donc, en fait, voilà un peu ce qui s'est passé à Saloum là-bas.
Merci. Merci beaucoup, Roméo. Tu nous as édifié. Sans transition, Keïta, ces avions qui quittent l'Égypte et qui quittent la Tunisie, ils arrivent à Sénou. Et toi, tu étais quand même au plus près, tu es l'intervenant de l'AME à l'accueil permanent et quotidien à l'aéroport de Bamako-Sénou. Ces avions-là sont venus à chaque fois en ta présence. Donc, comment s'est passé ce travail d'accueil des personnes, comment ils sont arrivés, dans quelles conditions? Et je crois savoir aussi que dans un premier temps, c'était dans la cour de la protection civile, et ensuite vous vous êtes tous retrouvés à la place de la foi de la FEBAC. Comment s'est passé toutes ces procédures d'accueil, d'installation, de prise en charge? Comment ça s'est passé réellement, toi qui étais sur le terrain ici à l'aéroport?
Merci Alassane Dibo. Je pense, je vois, c'était en train de demander l'air pour... Compte tenu le temps, je pense que je ne reste pas trop longtemps dans la discussion. Mais il y a des choses qui ont été dites et je pensais qu'il y a des choses très importantes qui ont été dites. Vous voyez, tout ce travail, ça se fait sans une contrainte de difficulté. Et dans laquelle, où les gens qui étaient à la frontière qui ont dit leurs difficultés. Nous, la plus grande difficulté à nous, c'est à l'aéroport de Bamako aussi. Bah, je pensais que tous les soirs, quand on regardait à la télé, il y a des Maliens qui sont arrivés à l'aéroport de Bamako, mais personne ne comprend. Mais vraiment, je souhaitais très vivement saluer l'OIM ici. S'ils étaient là, je voulais lui saluer et remercier beaucoup, notamment la protection civile. Et parce que c'était la protection civile, l'OIM et l'AME qui étaient présents, y compris la délégation du ministère de Mali de l'Extérieur et le délégué général de Mali de l'Extérieur qu'on est présent tous les soirs à l'aéroport pour de 18h à 6h du matin. Parce qu'il y a des jours, on a 6 vols qui arrivent. Dans chaque vol, il y a 277 ou 280 personnes dans chaque avion. Et donc, au début, c'était très difficile parce que la protection civile avait une seule car qui était présente sur l'aéroport. Imagine, pour 600 personnes, un seul car qui fait la navette, c'était très difficile. Et souvent, il arrive même que le représentant de la protection civile qui est sur le terrain, qui prend 5000 francs dans sa propre poche pour mettre le carburant dans le bus, dans le grand car de 60 places là. Et au début, on avait une grosse difficulté dans ce sens-là parce qu'on ne comprenait pas. Et c'est qu'il y a, je pensais que vous étiez tous présents à l'arrivée de ces gens. La plupart des journalistes qui sont là, vous étiez tous présents à l'arrivée. On ne se pose pas la question de dire que ce n'est pas une critique pour le gouvernement malien, de demander qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement malien. Moi, dans mon entendement, de mon compréhension, même si je ne comprends pas de plus haut, je vois qu'ils sont présents à la descente de l'avion, de serrer la main de ces gens, les Maliens qui viennent de la Libye. Mais à part ça, concrètement, on ne sait pas réellement ce qu'ils ont fait. Mais c'est que sûr que là, tous les vols qui sont arrivés à l'aéroport de Bamako a été envoyé par l'OIM. C'est l'OIM qui a affrété tous les vols. Et ça, c'était le contexte d'arrivage. À ce jour, aujourd'hui, on est à peu près, hein, approximatif, 11 000 Maliens rapatriés de la Libye. Le dernier est venu avant-hier, 163 personnes avant-hier. Donc on est à peu près 11 000 Maliens. Alors, et quand le vol arrive, il y a, comme Jean-Richard il a dit, il y a des blessés qui sont, il y a des personnes blessées qui ont des balles dans leurs pieds. Mais ce qui s'est passé, le plus gros problème, c'est que les malades ne peuvent pas rentrer dans les cars. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas le moyen de le transporter. Alors, il met la pression, l'AME vous prend en charge les malades.
Alors, et nous, qu'est-ce qui s'est passé comme on a une petite voiture qui fait l'accueil? Les malades qui sont là, deux ou trois personnes, on essaye de mettre les malades, on les amène à la protection civile de Faladjé. Et quand on amène les malades là-bas, on les met là-bas et en attendant que voilà, peut-être le responsable de l'AME, Médecins du Monde, prend l'initiative de trouver une solution pour les soigner. Mais ce qui s'est passé à la fin, finalement, tout le regard s'est tourné vers l'AME et Médecins du Monde en disant que voilà, vous occupez les malades. Tous les malades qui sont arrivés, qui sont gravement malades, et on dit non, voilà, il y a l'AME qui est là. Même souvent, il y a des malades qui viennent avec un médecin qui est accompagné par un médecin. Il faudra qu'un représentant de l'AME ou Médecins du Monde monte dans l'avion pour remplir la décharge. Parce que le représentant du ministère de Mali de l'Extérieur ne veut pas prendre ces gens-là en charge. Après, ça fait une responsabilité. Comme l'AME est là, il peut le faire. Donc, nous, on remplit la fiche, on les fait descendre et on les transporte ici. Mais le plus travail, c'était que quand ils arrivent, 200 personnes avec leur bagage. Là, dans un premier temps, la production civile, l'OIM a décidé, les gens ils arrivent, disons qu'ils sont passés 3, 4, 5 jours qui ne mangent pas. Et ceux qui vont partir dans leur village, ils donnent 5 000 francs à chaque personne. Ça, c'était leur initiative. Personne n'a forcé l'OIM de faire ça. C'est l'OIM qui a voulu faire ça pour questions humanitaires. Alors, le problème, c'est ce qui s'est passé, quand en ce moment, il y a moi, l'AME, Michel de l'OIM et nous, Koulibaly de la production civile, on était trois personnes pour s'occuper à 600 personnes, de donner 5 000, de regarder leur passeport, le nom, le prénom, et rempli en même temps donner le 5 000. L'attente était trop longue, on est fatigué. Et souvent, quand tu sors l'argent, certains sont tellement pressés, ils ont voulu rasser l'argent dans la main. Donc on est resté pendant une semaine comme ça, et quand on finit de donner l'argent, et on donne les bagages aussi. Mais à la fin, nous, on ne peut plus parce qu'il n'y a pas d'autres services qui étaient présents pour nous aider à faire ce travail. On était trois personnes à changer de faire ce travail. Et quand le responsable de l'OIM est venu de Dakar pour venir prêter main forte, il a trouvé qu'il y a trop de travail à faire, que finalement, tu ne peux pas continuer à donner l'argent et en même temps donner les bagages, tu ne peux plus. Et donc, il a décidé d'arrêter provisoirement. C'est en ce moment que les gens qui sont arrivés, qui sont révoltés, qui ont pris l'autogare. C'est là, en ce moment, ils sont décidés de les envoyer dans la cour de Febak. Donc, quand ils sont partis là-bas, et l'AME, Médecins du Monde, on a essayé d'acheter des nattes et des grands bassins pour de l'eau. Et en même temps, l'usine de glace qui sont dans le marché, on achète la glace pour aller mettre dans les bacs là-bas pour que les gens puissent boire de l'eau, tout ça. Et donc, c'est entre-temps qu'on a vu un regroupement d'associations féminines, des femmes,
le réseau ANIA,
et aussi ils ont entendu qu'ils sont organisés un peu, certains ont cotisé, même un clos de riz, ils n'ont pas obligé quelqu'un de donner de tel montant, certains ont donné, même moi j'ai vu une dame qui a donné 5 kibs magie, 5, vous ajoutez, ainsi de suite comme ça. À ce jour, quand je trouvais dans la cour, je trouvais que, je dis, nous on a fait 3 jours, 4 jours, mais on est fatigué. Et vraiment, si vous avez pris l'initiative comme ça, il est très important. C'est vrai, ne compte pas sur le gouvernement qu'on vous donne quelque chose. Mais on doit monter l'information pour qu'ils sachent qu'il y a une autre association qui s'est mise en place humanitairement pour aider ces gens. Je suis parti à la DGME pour aller informer les responsables, de dire que nous on a fait les 3-4 jours là, on est fatigué, mais il y a un autre groupe qui sont venus, qui sont en train de préparer, mais leur limite, ils sont aussi une limite très, ils sont les moins très limités, parce qu'il restait que 3 jours aussi, donc ils donnent le repas, mais à la fin, eux aussi, ils ont pas pu continuer. Donc, ça c'était le chapitre vraiment qui était au niveau de la nourriture. Mais maintenant, c'est qu'il y a les malades, les blessés. Une fois, ils ont pris un monsieur qui avait la balle dans son pied, on l'a amené à l'hôpital Gabriel Touré. Alors, il dit, c'est qui va prendre en charge? Le ministère a dit, en tout cas, ils ne sont pas le moins pour le prendre en charge. Je l'ai dit et je le confirme parce que la personne est là, j'ai des preuves sur moi ici. La protection civile dit aussi que non, tu ne peux pas prendre ce malade-là en charge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Que c'est l'AME qui va prendre en charge. Et ils ont pris l'ambulance de Gabriel Touré de venir à l'AME ici avec, avec ce malade-là. Je lui ai dit non, on ne veut pas prendre quelqu'un qui est en face de la vie. L'AME, ce n'est pas un centre médical. On ne peut pas s'occuper des personnes qui sont en train de mourir comme ça. Il faut l'envoyer à l'hôpital pour s'occuper. Donc, nous, on ne peut pas s'occuper des personnes comme ça. Je pensais qu'à ce jour, on se samaillait un peu entre la protection civile et Gabriel Touré et l'AME. Chacun m'appelle. Je dis non. L'AME, c'est un service d'association. On n'est pas national. On n'est pas pour l'État. C'est l'État qui doit prendre ces gens-là en charge. Ou sinon, la protection civile qui doit prendre ça en charge. Ils disent qu'ils n'ont pas le moyen. Alors, du coup, vu que nous, on ne veut plus prendre des personnes très graves comme ça, ils ont trouvé une solution. Jusqu'à présent, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il est devenu ce dernier. Alors, pour la Côte d'Ivoire, les groupes qui sont venus, il y avait un cas aussi, c'était presque la même chose qui était vraiment en face de la ville. On est parti à l'hôpital Gabriel Touré. On a pris déjà à l'aéroport et on amène à l'hôpital Gabriel Touré. Elle me dit non, qui va prendre en charge? Il faut déterminer cette responsabilité-là, sinon qui ne peut pas le prendre ce monsieur-là. Ils sont partis voir, c'était un Mauritanien, voir l'ambassade de Mauritanie pour lui demander s'il peut prendre ce monsieur en charge. Elle me dit non, il y a une association qui est là, ils vont prendre ça en charge. On m'appelle que voilà, et vous avez dit que vous allez prendre les malades en charge. Je dis, monsieur, moi je veux prendre les malades en charge, mais pas une malade qui est en face de la vie. Elle me dit, monsieur, si mon frère il est mort là, je vais vous porter plainte. Ça, c'était un représentant de consulat de Mauritanie qui me parle comme ça. Aussitôt, ils ont pris cette malade là, dans le même ambulance de pompée là que vous voyez dans la rue là, qui l'amène ce malade là ici, qui était sous la supervision en ce moment quand ils arrivaient ici. Et ils arrivent, ils m'appellent. Monsieur, on est là, on est avec le malade là. Et on va le laisser où? J'ai dit, monsieur, vous êtes devant l'AME. Est-ce que c'est un centre médical? Vous laissez le monsieur là-bas, s'il meurt, c'est sous votre responsabilité. On ne prend pas des personnes comme ça en charge. Nous, on prend des personnes qui n'est pas gravement malade, mais qui est en face de la vie comme ça, on ne peut pas le faire. Elle me dit, monsieur, vous êtes obligé de le faire. Je dis, monsieur, nous sommes association, on n'est pas obligé de le faire. Vous laissez le monsieur là-bas, il meurt, ça sera sous votre responsabilité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin maintenant? La protection civile était désespérée. Ils n'arrivent plus à trouver une solution. Alors, finalement, ils ont appelé l'OIM, le responsable de l'OIM, qui l'ont expliqué la situation. Elle me dit, ben, personne ne peut pas laisser un malade mourir comme ça. Vous êtes l'État, vous êtes responsable, vous devez s'occuper de ce monsieur. L'association a mieux fait, ils ont fait beaucoup. Et s'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre ça en charge, vraiment, il faut que vous trouviez une solution. Alors, elle a décidé humanitairement. Elle a dit, bon, vous amenez le monsieur à l'hôpital. Ils ont parti hospitaliser ce monsieur là-bas. Donc, elle a pris tous les frais médicaux en charge. Mais là où je suis, ces malades-là, je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'il est devenu. Mais voilà, le plus gros difficulté à cet accueil au niveau de l'aéroport de Bamako, c'est qu'il y a l'accueil par l'État malien. Mais je sens que c'est l'OIM qui affrète les appareils. Mais en même temps, après tout ça, ce n'est pas une critique pour le ministère ou le gouvernement. Mais quelle était leur responsabilité pour des différents cas comme ça? Parce qu'il n'est pas normal qu'une personne qui est là, qui est en face de mourir, qu'on le laisse comme ça à la porte d'une association qui n'ont même pas le moyen. Et souvent, c'est ça qui nous a révolté un peu. Et voilà un peu ce qui a été fait. Moi, je pensais que... Et vraiment, toutes les questions sont les bienvenues. Tout ce qu'on peut le répondre, on le répond. Mais en sachant que ce n'est pas une critique du gouvernement. Mais de quelle est leur responsabilité dedans? Et en même temps, je vous informe aussi que cette conférence de presse est en train de se passer au restaurant de l'Association Malienne des Expulsés, dont la plupart de ces gens qui viennent, qui mangent dans ce restaurant, et en attendant de leur départ dans leur localité. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Keita. Je récapitule pour dire que le même Keita, avec l'équipe AME-MDM, les premiers arrivés, pendant 4 jours, on partait à chaque arrivée, on partait distribuer des sandwichs et de l'eau glacée. Pendant 4 jours, les premiers vols qui sont arrivés, on partait chaque jour donner à chaque arrivée des sandwichs et de l'eau glacée. Ensuite, comme il a dit, on a acheté 120 nattes pour qu'ils puissent avoir au moins un petit truc pour dormir dessus. Et ensuite, on a acheté 50 barriques. Il y avait 20 d'abord,
Il y en a qui ont été volés au bout de deux jours. On en a augmenté. Des barriques pour qu'ils conservent de l'eau parce qu'ils ont besoin de faire la lessive et autres. Hein, de 120 litres. Des barriques de 120 litres. Et ensuite, après une semaine, deuxième semaine, pendant qu'on est en train de faire quelques prises en charge médico-sociales et des liens avec les familles par des téléphones en famille pour dire que voilà, les enfants sont arrivés, ils sont quand même en bonne santé. Et pendant que ces personnes aussi arrivées sont en train de lutter pour avoir leurs bagages, ils ne trouvaient pas à manger là où la protection civile, les autorités les ont gardés. Ils n'arrivaient pas à trouver à manger. Donc il y avait une crise alimentaire qui se prononçait sur le camp là-bas. Et ensuite, on a décidé, Médecins du Monde et AME ont décidé de prendre 72 heures de prise en charge alimentaire, c'est-à-dire 3 repas par jour. Pendant 3 jours, 72 heures, nous l'avons fait. Et au troisième jour, c'était le 24 mars, nous avons convié tous les services concernés au CIGEM. L'AME et MDM a initié cette rencontre avec les différents ministères et les services techniques concernés par l'accueil et l'accompagnement des migrants arrivés au Mali. Parce que ça relève de l'autorité de l'État, à première vue. Donc on les a réunis pour dire, voilà la situation, voilà nos observations, notre analyse est à deux niveaux. Un, il faut que ces gens-là puissent trouver à manger et qu'ils puissent être soignés. Et de deux, il faut des réponses appropriées et leur donner de bonnes procédures pour pouvoir rentrer dans leur village. C'est la question que Keïta a posée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On les invite à faire une déclaration de tout ce qu'ils ont fait. Monsieur le Président de l'AME, je pense que nous sommes à la fin de cette conférence. Tout en remerciant vraiment nos hommes de la presse qui ont pris le temps sur eux, je vous redonne la parole étant président de la séance. Sans oublier qu'il y a Monsieur Tunkara qui représente la Fédération des associations des migrants au Mali, la FAM, qui représente Madame Karambe.
Tout ce que moi je voulais ajouter, c'est deux petits mots. Les prises en charge qui ont été faites ici à Bamako par le MDM et l'AME pendant 72 heures que tu viens de parler, et on a interpellé le gouvernement malien pour qu'il puisse prendre en charge après les 72 heures parce que MDM et AME voulaient travailler dans la prise en charge sanitaire, mais qui n'a jamais été fait. À mon nom personnel, dans cette conférence, l'AME en général, on interpelle le gouvernement malien. Ils n'ont rien fait depuis dans le camp de rapatriement jusqu'au Mali. Le gouvernement malien, l'AME l'interpelle qu'ils n'ont rien fait. S'il peut justifier en sortant des rapports officiels, c'est-à-dire qu'on peut trouver, tout le monde peut lire. Nous, on a des rapports. Le psychologue a parlé de ce qu'il a fait. Romeo a son rapport. Vous aussi. Et à Bamako, donc on a des rapports. Mais ce que je vais dire à le peuple malien, je dis et je répète, il s'agit là le politique de la migration. Il ne s'agit pas le politique des politiques. Il ne s'agit pas le politique de Kadhafi. Il ne s'agit pas le politique de l'OTAN. Il ne s'agit pas aussi des politiques des deux pays où les musulmans ou les autres peuples maliens en train de soutenir X. Tout ce que nous on dit ici, c'est la réalité et c'est la politique migratoire. Il faut qu'ils comprennent, il ne faut pas avoir des déformations. Parce que si les journalistes ont bien travaillé, on va voir ce qui a été dit dans les journaux quelques jours. Et le discours qui est au Mali aujourd'hui, avec le peuple malien, qui est tout à fait contradictoire avec de ce qu'on est en train de dire. Donc il faut qu'ils comprennent que l'AME et ses collectifs, avec tous les intervenants, on n'a parlé que de politique migratoire, de ce que nos frères et nos amis maliens ou de l'autre pays de subsahariens qui ont subi en Libye. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Et comme ça, on va donner la parole à des journalistes s'il y a des questions.
Alors, moi, c'est Bakary Koulibé, la Radio Kaira. Ce que moi, je voudrais savoir, dans un moment donné, il y a eu un problème des bagages. Où en sommes-nous avec ce problème actuellement?
Alors, pour les bagages, je sais qu'il y avait déjà, ils ont fait spécialement une demande de bagages. Il y a 4 tonnes déjà qui est arrivée. Il y a 4 tonnes déjà arrivées qui étaient toutes distribuées. Mais jusqu'à présent, là où on est encore, il reste encore beaucoup de bagages qui ne sont pas arrivés. Et sûrement, l'OIM a fait une demande, mais les bagages ne sont pas toujours arrivés. Nous sommes à l'attente des bagages. Mais quand même, déjà, il y a 4 tonnes qui est déjà arrivée quand même, qui a été distribuée.
Juste pour compléter cette question des bagages, il faut rappeler aussi que partant des frontières pour les lieux où avaient lieu les rapatriements, c'était des gros bus de 70 places qu'on utilisait pour pouvoir transporter des gens. Et les soutes de ces bus n'arrivaient pas à contenir les énormes bagages que certaines personnes avaient. Raison pour laquelle on demandait à certaines personnes de laisser les bagages en les identifiant. Et l'OIM devait se charger après de les faire rapatrier. Et l'OIM même n'a pas ses propres avions. L'OIM aussi paie des places dans d'autres avions qui font les lignes. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de prendre un avion, par exemple, du Caire, qui n'est pas plein, et de le faire venir jusqu'à Bamako. Donc on attend un avion qui est en train de venir vers la zone où on met 100 personnes ou 200 personnes afin qu'ils arrivent. Mais il y a déjà des passagers là-dedans qui ont aussi leur bagage à eux. C'est pour cela que les bagages sûrement tardent à arriver. Mais je suis sûr, vu la parole de l'OIM, que tous ces bagages vont arriver, quoi.
Pour encore aller dans le même sens,
les bagages,
pour que la mission étant sur terrain, on communiquait avec, on échangeait quotidiennement avec l'AME ici. Donc, les préoccupations des personnes déjà arrivées sur place nous parvenaient. Donc, par rapport à ça, on a presque assisté à tous les embarquements qui s'effectuaient durant la journée. Mais ces personnes-là étaient sensibilisées par rapport à cette question-là, parce qu'on avait interpellé les responsables OIM sur place, M. Philippe, qui nous disait qu'à l'état actuel des choses, les bagages ne sont pas des préoccupations. L'acheminement des bagages ne peut pas être une préoccupation pour l'OIM. Donc, on avait sensibilisé les gens par rapport à cette question, que chacun essaie de prendre ce qui lui est prioritaire parmi ses bagages pour pouvoir embarquer avec. Donc, du moment où il y a eu cette manifestation-là ici, donc toutes les personnes qui ont été rapatriées après ça, déjà sur place avait l'information par rapport à ça. Donc voilà un peu comment cette question a été traitée depuis là-bas.
Juste pour compléter, pas pour dire les bagages sont arrivés, les bagages ne sont pas arrivés. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est des personnes qui ont travaillé pendant des années là-bas, qui ont pour seule fortune un petit sac. Et quand ils viennent ici, ils n'ont pas ce petit sac. Et l'État ne veut pas que ces gens ils marchent, qu'ils protestent, et on envoie les policiers pour les frapper, sans chercher à comprendre. Moi, je pense que c'est avoir l'esprit très court. C'est avoir l'esprit très court. Et je pense que c'est très humain, quand on a tout perdu, et que pour seul bien, c'est mon petit bagage. Si ça, ça se perd à Bamako, alors que je dois retourner à Gao, je n'ai pas un parent, par exemple, à Bamako, chez qui je peux rester en attendant que mon bagage devienne. Et on me demande de ne pas protester. Donc je pense que ça c'est des aspects aussi auxquels j'invite un peu les journalistes un peu à mettre en relief pour qu'on sache un peu qu'est-ce qui a motivé les gens à marcher. C'est de leur droit, mais on envoie des gens, des policiers pour les battre. C'est tout simplement dommage.
D'accord. Pour terminer, le problème des bagages aussi, c'était qu'il a été dit que vu les frappes sont en train de se multiplier, qui prend 20 kilos de chacun. Mais ils ont trouvé que il y a une personne qui a au moins 3-4 balises qui est plus de 20 kilos. Donc, et du coup, comme Omar il a dit, ils ont donné la priorité à des personnes d'abord. Et après, que les bagages vont venir après. Mais je pensais que après tous ces vagues-là, comme je vous ai dit, il y a quatre tonnes qui sont venues. Et en ce moment, il y a d'autres commandes qui sont en cours encore. Donc en ce moment, et par exemple, avant-hier, une dame qui est venue, elle a au moins 10 valises qui sont plus de 30 kilos. Donc du coup, quand même, ils sont en train de les amener avec des bonnes foi et l'OIM est en train de faire l'effort pour les bagages. En tout cas, les bagages, ils vont venir. Voilà.
Je m'appelle Kassoum Tira. Ma question s'adresse au président de l'AME. Moi, je voudrais tout juste savoir, durant cette crise, vous avez déployé combien de personnes sur le terrain, aussi bien qu'au Mali et aussi à l'extérieur. En plus, j'aimerais savoir, vous avez secouru également combien de personnes, les Maliens aussi bien que les Subsahariens. Merci.
Et au sein de l'AME, quand même, il y avait 3 personnes. On a envoyé 3 personnes, en conjointement avec MDM, qu'on a envoyé 3 de l'AME. Il s'agit bien le psychologue qui est devant vous, Omar Sidibé. Avant Omar, c'était le psychologue Alassane Diko qui était là-bas. Mais vu le problème familial ou personnel d'Alassane qui est retourné, Omar est allé rejoindre monsieur le psychologue. Voilà, sur place, il y avait 3 personnes de l'AME qui est allé faire l'intervention dans le camp de Choucha en Tunisie. Et en même temps, Aracem, qui est aussi partenaire de Médecins du Monde, a envoyé M. le Président à la frontière égyptienne pour mieux coordonner les choses. Mais ici, au Mali, à Bamako, il y avait toute l'équipe de l'AME qui mobilisait pour pouvoir soutenir ces gens-là. Et même l'équipe bénévole de l'AME. Et la maman est là, elle fait partie d'un comité de soutien de l'AME qui travaille en bénévolat, qui a préparé la nourriture ici pour donner à nos frères migrants de retour. Et Rika, qui est aussi un bénévole soutien de l'AME, qui a même saisi les témoignages de certaines personnes, elle est là. Donc cela dit que c'est toute la machine de l'AME qui s'est mobilisée depuis Abamako, à Nioro du Sahel, et on était en lien direct avec la maison des migrants à Gao et une association d'Ireiben qui se trouve aujourd'hui à Gao pour faire des bonnes coordonnations. Donc cela dit que à Bamako, on était plus d'une quarantaine de personnes, membres de l'AME, les membres du collectif et les bénévoles de l'AME qui s'est mobilisé pour pouvoir vraiment satisfaire nos compatriotes de retour. Voilà un peu si j'ai bien répondu la question. Et oui, je pense que M. Keïta a dit 11 000 personnes, à peu près 11 000 personnes. Il faut savoir, moi je peux aller au-delà. 11 000 personnes, c'est ceux qui sont venus à l'aéroport. Donc à chaque arrivée à l'aéroport, il y a quand même le représentant de l'AME qui est présent. Donc à Bamako, il y a 11 000. Mais à la frontière, maintenant, il y a plus de aussi 6 000 personnes. Donc en gros, on peut aller jusqu'à 16 à 17 000 personnes. Ceux qui sont venus par les voies terrestres et que nous sommes en contact, même ce matin, avec ces gens-là. Nous sommes en contact avec Direben, nous sommes en contact avec la femme de Modibo à Kidal, nous sommes en contact avec la maison des migrants qui nous informe. Et à Nioro du Sahel, les quelques-uns qui passent vers Nioro du Sahel, on a une antenne à Nioro qui nous informe. Donc en gros, ce que je peux dire, les personnes assistées par ces vagues-là, par le retour involontaire, à cause de la guerre, mais très souvent dit retour volontaire à cause de la guerre, je ne sais pas comment identifier si c'est volontaire ou involontaire. En gros, l'AME a assisté plus de 16 000 à 17 000 personnes, ceux qui sont venus sur les voies aériennes et les voies terrestres. Voilà.
Moi, j'ai deux petites questions, très rapidement. Je voulais m'adresser au psychologue et puis à Monsieur Oumar, moi je voudrais savoir comment était la complicité entre vous et les autorités tunisiennes. C'est la première. La deuxième question, c'est toujours sur la Tunisie. Il y a eu combien de morts durant votre mission? Combien de Maliens, sinon combien d'Africains qui sont morts par coup de blessure ou bien qui sont morts comme ça dans les camps?
D'accord. Donc par rapport au nombre de morts maliens, de la période du 7 au 17 mars, il n'y a pas eu de Maliens qui sont morts au camp. Il n'y en a pas eu. Les blessés ont été systématiquement pris en charge. D'abord, il y avait un gros risque parce qu'ils ne voulaient pas aller à l'hôpital. Mais grâce à notre intervention, à notre accompagnement, ils sont allés à l'hôpital, ils ont reçu les soins. Il n'y a pas eu de Maliens qui sont morts au camp de la période du 7 au 17 mars. Et complicité, bon, complicité avec les autorités maliennes et les autorités tunisiennes. Ce que je sais, c'est que notre mission était officielle, d'accord, officielle, et puis il y avait aussi un ressortissant algérien qui était notre chef de mission, médecin, et qui travaille au siège de Médecins du Monde en France, et donc lui, il a surtout facilité beaucoup de choses. On n'a rencontré aucun problème avec les autorités tunisiennes. Franchement, aucun. Surtout qu'il n'y a pas de visa entre le Mali et la Tunisie. Quand on est arrivé à l'aéroport, à peine même nos pièces étaient contrôlées. Voilà. À part ça, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a franchement pas de problème.
Parce qu'il a fait allusion jusqu'au 17.
Il se trouve que après le 17, après son retour, moi je suis resté quelques temps après. C'est pour confirmer que durant tout notre séjour, il n'y a pas eu de cas de décès constatés sur place. Même après nous, on n'a pas reçu d'informations par rapport au décès d'un Malien. Maintenant, pour répondre à la première question, les relations entre la mission et les autorités, on avait quand même, on était en mission officielle, donc avec des ordres de mission, et on nous identifiait à travers nos vestes MDM France, qui nous facilitait nos mouvements à travers la ville et puis au camp. En plus, même les véhicules qui étaient mis à disposition étaient quand même identifiables avec les logos MDM France. Donc sur ce plan, il n'y a eu aucun problème avec les autorités tunisiennes. Au contraire, nous ont facilité le travail.
Et par rapport aux prises en charge directes ici
Par rapport aux prises en charge directes ici, c'est que nous, un moment...
Il y avait des gens à la FEBAC qu'on assistait directement, mais il y avait aussi ceux qui venaient d'eux-mêmes, qui partaient à la RACEM et qui venaient à l'AME, qui continuent même à venir et qui exprimaient des besoins.
Donc, ces personnes-là, c'était des personnes qui ont séjourné un moment soit à la protection civile, soit au FEBAC. Mais compte tenu de la situation, parce que là, il est important aussi de parler du rôle de la société civile malienne, ce rôle important que la société civile devrait jouer. Parce que les préoccupations n'étaient pas qu'ils ont tout perdu. Il y avait les préoccupations aussi par rapport au retour en famille. C'était vraiment une préoccupation majeure pour ces personnes-là. Quelqu'un qui a séjourné en Libye un an, deux ans, voire plus, qui a travaillé, qui s'est privé de certaines choses pour pouvoir économiser et qui se trouve dépouillé de tout ce qu'il a pu économiser et qui est contraint, obligé de retourner chez lui. Donc, c'était une préoccupation. Donc, il y a eu un cas, d'ailleurs le seul cas de référence sous contrôle du psychologue, il y a une personne qui a été référée en psychiatrie. Je revenais sur la question, parce qu'il n'a pas pu supporter, lorsqu'il a fait état de la situation qu'il vivait, qu'il a vécu en Libye jusqu'au camp, quand il a parlé de ça et qu'il était prêt à retourner à la maison sans un bagage, sans rien, parce qu'il a été dépouillé, on l'a confisqué tout ce qu'il a pu économiser. Ce sont ses parents qui lui ont dit que s'il n'a rien, il n'y a pas question qu'il retourne à la maison. Et monsieur n'a pas pu supporter ça. Il a piqué une crise. Ça a été vraiment un choc terrible pour lui. Il n'a pas pu supporter. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est une personne qui a fini par être référée en psychiatrie. Et cette personne-là, même pour l'évacuer sur Bamako, on était obligé avec l'OIM de le faire accompagner par un médecin. Donc, ça c'est ça. Mais par contre, en ce qui concerne les personnes qui sont venues ici, leurs attentes c'était quoi? Parce qu'ils étaient anxieux par rapport à leur retour à la maison. Est-ce que les parents vont comprendre? Nous savons que nous sommes dans un pays où la migration est quand même culturelle. Chacun de nous sait à peu près l'apport de la migration par rapport au quotidien de la famille restée sur place. Donc, ces personnes-là, l'AME a pu quand même les soutenir moralement, psychologiquement, pour qu'ils puissent envisager leur retour à la maison. C'est des personnes qui mangeaient ici quotidiennement, qui dormaient avec nous, avec le nouveau local là. Donc, c'est des personnes qui sont restées au-delà des trois jours même que nous accordons régulièrement aux personnes, qui sont restées, il y a quelqu'un qui est resté plus de 15 jours. Donc voilà un peu dans quel état ces personnes-là se retrouvaient, même après leur retour à Bamako. Donc je pense qu'il était important aussi de signaler cette situation-là.
Bon, moi j'ai à peu près la même préoccupation, parce qu'il a donné 11 000 là.
À peu près
11 000. Est-ce que les 11 000 là, c'est Côte d'Ivoire et Libye confondus? Bon, maintenant si ce n'est que la Libye, on veut savoir globalement, vous avez, pendant les deux crises, combien de personnes vous avez secouru. La seconde question, c'est, je sais que vous avez dépensé assez d'argent, mais comment vous avez trouvé les fonds? Et vous avez dépensé combien pour ces opérations? Bon, la dernière question, c'est vos partenaires. À chaque instant, on était à l'aéroport. Quel est le niveau de coopération que vous avez entretenu avec l'État malien?
Le partenariat avec le gouvernement, c'est ce que l'AME a un badge d'accès au niveau de l'aéroport. Et d'ailleurs, l'AME était la seule association même qui était sollicitée à l'arrivée des charters des Maliens de Libye. Il n'y a que l'AME seule qui était comme une association de la société civile qui était sollicitée, y compris le Haut Conseil du Malien de l'extérieur qui est à l'aéroport là-bas. Et donc, on avait une bonne, je veux dire bien, parce qu'il m'informe, le gouvernement, il m'informe, tel que la police m'informe, ou le Haut Conseil, le délégué général du Malien de l'extérieur qui est à l'aéroport, qui m'appelle, Keta, il faut te préparer, il y a une vol qui arrive. Donc, ça veut dire qu'on a une bonne partenariat. Mais c'est sûr qu'il s'est déchargé la question des malades. Mais sinon, à part ça, vraiment toutes ces activités, comme vous avez dit, on se retrouvait à l'aéroport, on avait une bonne partenariat ensemble et ils nous sollicitaient tout le temps nos présences là-bas et pour faire cet accueil là. Mais à part de malades là, et voilà, on n'a pas eu de problème avec le gouvernement. Et la deuxième question, c'était qu'avec quel moyen, je pense que Ousmane était un peu bien placé pour répondre à cette question, avec quel moyen. Donc voilà, parce qu'il a posé une question, avec quel moyen on fait ces activités-là.
Ben, les moyens étaient un moyen qu'on a déjà sur place, parce qu'il faut savoir que on a la subvention avec nos partenaires de l'Europe, qui est Médecins du Monde, qui est la CIMAD et Médico International. Donc on a prévu très souvent des arrivées massives si on peut dépenser quelque chose. Et aussitôt, il y avait la demande, on a demandé à les uns et des autres de contribuer, même si c'est l'effort physique, c'est aussi les moyens, même les efforts physiques et financiers aussi. Donc c'était la contribution de tout le monde, des partenaires, des collectifs et de l'AME. Voilà, c'est le moyen qui nous a permis vraiment de faire ce travail-là. Parce qu'il faut, être moralement et mûr pour mieux faire ce travail. C'est ça qui a fait que certaines personnes de l'AME et de l'ASM étaient à la frontière. Et à 3h, 4h du matin, quelqu'un de l'AME qui est à l'aéroport, je peux dire que tout ça, c'est les moyens. Il faut avoir le moyen de se déplacer, il faut avoir le moyen financier aussi. Donc l'ensemble de tout ça qui nous a vraiment permis de réaliser de ce qu'on a pu faire. Voilà.
Je pense qu'il y a une dernière question qui a été dite par vous, par Terera. Les 11 000 Maliens, et ce n'est pas les Ivoiriens qui sont dans ces chiffres-là, c'est ce qui est les 11 à peu près, qu'on est dans les entourants à peu près 11 000 personnes qui sont arrivées à l'aéroport de Bamako, de Djerba et en Égypte. Ils sont tous des Maliens.
Si les journalistes pensent avoir eu des éléments de réponse par rapport à leurs questions, les dernières questions, je pense qu'on va remercier les uns et les autres. La journée est bien entamée. On va remercier et dire encore une fois qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant sur ces questions parce que, au plaisir de me répéter, pour un pays qui est beaucoup émetteur de migrants et qui reçoit aussi beaucoup d'expulsés et de refoulés, et un pays aussi qui est traversé ou qui est un lieu de transit de beaucoup de migrants subsahariens, dans une crise comme celle de Libye, il faudra plus porter attention sur les droits humains des migrants, porter plus attention sur la disposition de bonnes procédures d'accueil et d'accompagnement, d'acheminement des personnes, plutôt que de se focaliser sur un certain soutien populiste et populaire pour Kadhafi, par exemple. Sachant bien que, comme l'a dit les uns et les autres, vous avez bien vu, avant la crise, il y avait des violations de droits sur ces migrants. Et pendant la crise, ils ont été ciblés. Et on se demande après la crise, quel en serait-il? Je vous remercie.